Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Avec ce regard croisé sur les relations internationales, nous ne sommes plus seuls au monde et le titre du dernier ouvrage de Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, publié par les éditions La Découverte. Bertrand Badie, bonjour.
Bonjour.
Regard croisé donc, Géopolitique profite du passage à Paris de Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant émérite à la Stony Brook University de New York et auteur de « Aux origines de la pensée politique américaine » paru aux éditions Hachette. Bonjour.
Et bonjour.
Bertrand Badie, après un ouvrage sur l'humiliation comme moteur des relations internationales, voici « Nous ne sommes plus seuls au monde » dans lequel vous développez l'idée que le Nord ne maîtrise plus l'agenda international, que le champ de bataille s'est déplacé vers le Sud, mais que le mode de gouvernance n'a pas pour autant évolué. Que signifie ce titre « Nous ne sommes plus seuls au monde » Bertrand Badie ?
Il est destiné à souligner un paradoxe que l'on ne montre pas suffisamment, à savoir que les relations internationales, qui devraient par définition être universelles, globales, ouvertes, ont été inventées autour du XVIIe siècle par des Européens pour faire fonctionner le monde européen. Et comme les États-Unis sont restés un peu en dehors de ce monde dans la foulée de la doctrine Monroe au XIXe siècle, cette culture de l'international est devenue bizarrement, contradictoirement, une culture de l'entre-soi. Où, effectivement, les Européens, alors la belle époque, c'était celle du concert européen au XIXe siècle, réglaient leurs problèmes, et quand il fallait régler leurs problèmes entre eux et que ces problèmes débordaient du cadre continental européen, on ne se gênait pas. Rappelez-vous le congrès de Berlin en 1885, partage de l'Afrique, et puis le concert européen voulait aussi s'occuper des États récemment issus de la décollision latino-américaine. Donc tout ça était, comme on dit, européocentré. La bipolarité, la guerre froide n'a pas arrangé les choses, puisque finalement, au XXe siècle, les États-Unis sont entrés dans un jeu international plein et entier en devenant une sorte de puissance européenne. Et que le conflit Est-Ouest ait été le paroxysme de cette Europe, champ de bataille du monde, cette Europe qui se regardait, souvent en chien de faïence et souvent de manière très brutale et violente, mais l'extérieur n'existait pas. La Chine, je le dis dans mon livre, a été découverte au XIXe siècle, enfin découverte sur le plan politique et économique au XIXe siècle et immédiatement marginalisée et méprisée. L'Afrique, le Moyen-Orient ont été colonisés. Et lorsqu'est intervenue la décolonisation, il s'est passé quelque chose de grave sur lequel on n'insiste pas assez, c'est que cette décolonisation a été complètement ratée. Et c'est sur la base de cette décolonisation bâclée, manquée, que s'est construit un système international qui n'a pas su intégrer les nouveaux États issus de cette mondialisation dans la gouvernance mondiale. Et quand même, ces États, c'est la grande majorité démographique de l'humanité, et c'est des pays, excusez du peu, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, par exemple, pour montrer la difficulté que nous avons à penser la place des émergents dans notre monde actuel. Et puis c'est aussi le continent africain qui reste le grand laissé-pour-compte de la gouvernance mondiale. Alors, il se passe beaucoup de choses, hélas, en Afrique, et des choses souvent violentes et atroces, mais ce sont les Européens qui trouvent tout seuls les solutions. Et on voit à quel point c'est adapté quand on observe quelle est l'évolution des conflits en Afrique. Alors tout ça, ça ne va pas. Vous savez, il y a ce proverbe Bambara que j'aime beaucoup, qui dit « on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence ». Eh bien, la diplomatie occidentale passe son temps à raser la tête de gens qui ne sont pas là. Et le succès n'est vraiment pas au rendez-vous.
Alors, Dick Howard, je me tourne vers vous. Comment résonne ce que vient de dire Bertrand Badie pour vous qui êtes américain, et quel rôle finalement dans tout cela pour les États-Unis ?
Bah, écoutez, je suis d'accord avec ce qu'il raconte d'une part, mais justement, ayant lu son bouquin, il y a un autre côté de l'affaire que j'aimerais souligner. Qu'est-ce qu'a contribué les États-Unis à notre pensée contemporaine? C'est l'idée de la société civile. Et un des aspects très forts de ce livre, c'est d'insister que, au-delà de la pensée des relations internationales, il y a la sociologie, il y a les sociétés qui interviennent. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, il est peut-être le cas que les États-Unis seraient, je ne dis pas sont, mais seraient en meilleure position pour comprendre les dilemmes que pointe justement Bertrand Badi. Donc j'aimerais que lui souligne beaucoup plus cet aspect sociologique de son analyse et qu'il sorte un peu de la pensée, dirais-je, Sciences Po.
Alors Bertrand Badi...
Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. On touche là une mutation phénoménale des relations internationales et surtout de l'étude des relations internationales. Alors, parce que dans la vieille tradition européenne, l'étude des relations internationales, c'est l'histoire diplomatique, les rapports entre États. Et ça encore, c'est une invention européenne, c'est une obsession européenne. C'est-à-dire, la diplomatie moderne a été inventée au moment de la paix de Westphalie en 1648 pour régenter ce phénomène nouveau dans l'histoire de l'humanité, qui était des États coexistants, juxtaposés, qui étaient en compétition permanente, donc il fallait organiser tout cela, y compris si ça débordait sous forme de guerre, il fallait aussi organiser ces guerres. C'est ce que le grand politiste américain Charles Tilly appelait le war-making, state-making, n'est-ce pas ? Et on n'a pas su passer à l'étape suivante, qui est la nôtre aujourd'hui, qui est que les relations internationales, au sens classique du terme, c'est terminé. Mmh. Nous sommes entrés dans les relations intersociales. Alors, ce qui est intéressant dans les relations intersociales, c'est qu'on voit effectivement émerger ce que j'appellerais un des paradoxes américains. C'est-à-dire que, sur le plan de cette histoire diplomatique traditionnelle, les États-Unis ont été très longtemps en marge, se sont mis en marge. J'évoquais Monroe tout à l'heure en disant, bah, écoutez, vous, Européens, vous organisez sous forme d'un concert européen, c'est votre affaire. Nous, notre affaire, c'est l'Amérique, sous-entendu, n'y touchez pas non plus, mais cette façon d'entrer dans un monde interétatique global, nous n'en voulons pas, d'autant que s'il y a un système politique au monde qui est attaché à la doctrine de la souveraineté, c'est bien les États-Unis. Nous sommes souverains. Ni le droit international, ni votre concert, ni vos organisations internationales ne vont nous dicter quoi que ce soit. Et puis, ce monde classique, en retrait duquel se placent les États-Unis en tout cas au XIXe siècle, a peu à peu laissé place à autre chose que nous appelons la mondialisation, qui est un phénomène extraordinairement complexe à définir, à comprendre, etc. Mais dont l'une des caractéristiques fondamentales, c'était bien le dépassement des relations interétatiques classiques. Dépassement par toutes ces formes de communication intersociétale qui allaient se développer sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan migratoire, sur le plan démographique, etc. Et cette mondialisation, les Européens n'ont jamais comprise. D'abord, pour un Européen, la mondialisation, c'est quelque chose de bizarre. Le monde, c'est l'Europe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la mondialisation de l'Europe ? Ça risque d'être la dissolution de l'Europe dans un ensemble plus vaste, ce qui ne fait pas sens. Et il suffit de voir quel est le discours qui est tenu aujourd'hui en Europe sur la démondialisation, sur la protection, etc., etc. Donc, nous n'avons pas su entrer dans cette logique de la mondialisation. Et nous ne savons toujours pas gérer ce monde intersocial qu'au contraire, les États-Unis ont d'autant plus facilement tissé autour d'eux que les États-Unis étaient portés par leur succès économique, leur succès technologique, leur succès dans le domaine de la communication. Ce nouveau monde est un monde qui reste très largement étranger aux thématiques véhiculées par la théorie politique européenne classique.
Dick O'Brien, vous partagez l'idée que les Européens n'ont pas compris la mondialisation que l'évoque à l'instant Bertrand Badi ?
Il y a une chose curieuse. Il y a à Vienne des négociations sur le destin de la Syrie. Et c'est à Vienne, en 1815, que s'est réuni donc le congrès de Vienne, après la chute de Napoléon, où justement les relations internationales européennes classiques se sont reformulées après cet épisode, justement révolutionnaire, cet épisode où le social s'est présenté sur la scène internationale, d'une part. D'autre part, pour ce qui raconte, c'est la deuxième fois que vous êtes revenu à notre cher Monroe. Mais en fait, la doctrine Monroe était formulée par le premier fils de président à accéder à la présidence américaine. C'était Adams Junior qui a formulé cette doctrine. Et il a eu la parole que je paraphrase, il dit, à propos de la doctrine, ce n'est pas à nous d'aller chercher des sorcières un peu partout, nous critiquons, mais on ne fait que ça, on revient chez soi. Alors la question qui se pose, si tant est que ce système européen n'a pas su faire face au dilemme de la mondialisation, que faire? Est-ce que justement c'est le retour sur nos sociétés qui serait en jeu et qu'on repense à partir de l'approfondissement de notre situation chez nous, qu'on réfléchisse sur les autres? Parce que, et c'est une troisième remarque, dans votre livre, vous parlez une ou deux fois seulement de la démocratisation. Et vous dites que la démocratisation est un échec. Démocratisation dans le sens de décolonisation, et vous identifiez démocratisation avec suffrage. Or, il me semble qu'il faut justement repenser la démocratie, aussi bien chez nous que sur le plan international, encore une fois, en termes sociologiques, si vous voulez, en termes sociaux, en termes d'une chair de la démocratie. Donc, ça, c'est trois remarques à propos aussi bien de ce que vous dites qu'à propos du livre.
Vous écoutez RFI, Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bertrand Badi, quand vous dites que les Européens n'ont pas compris la mondialisation, moi j'ai une remarque par rapport à votre ouvrage et aux références bibliographiques dans votre livre. Ce sont essentiellement des références qui nous viennent des États-Unis. Est-ce que finalement nous n'arrivons pas, nous Européens, à avoir une pensée des relations internationales? Les Américains réfléchissent plus que nous?
Alors c'est très compliqué, hein. Je crois qu'il faudrait toute une émission pour comprendre ce phénomène. En gros, 95% de la publication bibliographique en sciences politiques des relations internationales est publiée aux États-Unis.
C'est énorme.
C'est absolument énorme, mais ça s'explique en termes simples. Après, les modalités sont plus compliquées à comprendre. Pourquoi ? Parce que cette discipline académique est nouvelle, il a fallu deux guerres mondiales pour qu'elle vienne s'installer. À l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a eu une première pulsion pour dire, bon, bah, il faut quand même arrêter ces massacres, donc essayer de comprendre comment construire une paix durable. Mais à l'issue de la Première Guerre mondiale, ça n'a pas tenu. Il y a eu le totalitarisme, il y a eu tout un tas de choses qui ont emporté l'actualité. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et ça, c'est peut-être la grande malencontre, les États-Unis ont été le grand vainqueur de cette guerre et partait de l'idée qui était évidente à l'époque que la politique de puissance, l'usage de la puissance, permettait, le cas échéant, de libérer le monde comme il l'avait libéré du monstre nazi. C'était pas rien. Donc, dans les années 48-49, l'idée était claire, il fallait créer une science de la puissance internationale pour comprendre les relations internationales. Et tout ça venait logiquement s'installer aux États-Unis, grande puissance vainqueur de cette Seconde Guerre mondiale. Le grand problème, et ça, il y a une crise dans la science politique américaine qui apparaît, je dirais, à plusieurs occasions, avec la détente dans les années 70, mais surtout avec l'échec du néoconservatisme, beaucoup plus près de nous, il y a en gros une dizaine d'années. Cette pensée commence à être remise en cause. Parce que ce que j'explique dans mon livre, c'est que d'abord, la puissance, ça marchait autrefois, ça marche plus aujourd'hui. Et ça, c'est une énorme rupture, n'est-ce pas ? La puissance est devenue impuissante et les États-Unis eux-mêmes en ont fait les frais. Au Vietnam d'abord, puis ensuite en Irak, en Afghanistan, en Somalie, un peu partout dans le monde. L'affaiblissement de la portée de la puissance et ce que je développe dans mon livre, c'est-à-dire la naissance en substitution d'une politique de la faiblesse, le weakness politics qui remplace le power politics, eh bien tout ceci crée un trou béant dans la littérature des relations internationales qu'il faut combler. Alors aux États-Unis, il y a des gens tout à fait remarquables qui ont contribué, je pense par exemple à Robert Keohane, mais je pense surtout à mon ami Ned Lebo qui a fait un travail absolument extraordinaire. Un de ses derniers livres, Bye Bye Hegemony, veut bien dire ce qu'il veut dire, n'est-ce pas ? Et du coup, la science européenne reprend un peu du poids parce que la pensée européenne qui est critique, sceptique en matière de relations internationales, désorganisée, écrasée par son absence en quelque sorte dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale, reprend du sens, donne naissance à une petite école critique, mais avec cette crise du paradigme de la puissance, effectivement, il y a un timide retour de la pensée européenne, plus sceptique, plus critique à l'égard de la puissance, plus sociologique, plus historique, en disant, mais attendez, tout dépend pas de la puissance, ça dépend aussi de la société dans laquelle s'exerce cette puissance, ça dépend aussi de l'histoire qui a porté cette puissance et aussi les circonstances de sa décomposition. Il faut tenir compte des cultures, il faut tenir compte de l'anthropologie, en quelque sorte. Ça, c'est peut-être l'amorce d'une esquisse d'une science politique européenne des relations internationales.
Et pourtant, vous êtes plus sévère dans votre livre que vous ne l'êtes là à l'instant, Bertrand Badi, quand vous parlez de paresse intellectuelle.
Effectivement. Moi, la paresse intellectuelle me paraît sidérante. C'est-à-dire, Dick Howard faisait allusion à quelque chose de tout à fait significatif, qui est effectivement cette réunion à Vienne pour discuter du sort du Moyen-Orient. Moi, je suis absolument époustouflé de voir à quel point les Européens, les Occidentaux, j'élargirai aux puissances traditionnelles, c'est l'issue justement de ce 19e siècle, qui ne comprennent pas que le monde a changé, qui ne comprennent pas que la solution des grands problèmes internationaux passe par les sociétés qui en sont porteuses, passe par le rôle réhabilité de l'acteur local. Enfin, regardez, il se passe quelque chose dans le monde, un coup d'État en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou au Guatemala, immédiatement, vous allez avoir deux communiqués des chancelleries occidentales. Premier communiqué qui appelle les parties à la retenue. J'adore cette formule, n'est-ce pas ? On est en plein conflit, en pleine violence, on va appeler à la retenue depuis le fauteuil club que l'on occupe confortablement. Et puis après, on va tout bonnement dicter ses solutions. Dire, ben voilà, le conflit israélo-palestinien, le conflit syrien, le conflit afghan, le conflit malien, le conflit congolais ne peuvent se résoudre qu'à partir de ces points, et nous avons bouclé le plan, et maintenant il ne reste plus qu'à l'appliquer. Ça, c'est fini ce temps-là, c'est absolument fini, nous ne sommes plus seuls au monde. Et la paresse intellectuelle, c'est justement cette incapacité de comprendre les transformations phénoménales qui se sont produites dans les relations internationales avec la révolution des communications, avec les effets induits de l'essor des communications, avec la mondialisation, avec le fait que nous sommes dans un monde où tout le monde voit tout le monde et réciproquement, avec aussi cette transformation extraordinairement dangereuse des souffrances internationales qui nous laissent indifférents. Il meurt 6 millions d'hommes et de femmes de faim dans le monde chaque année. Personne n'y prête attention. Et pourtant, c'est ça la matrice de Boko Haram, de Al-Qaïda, d'ACMI, de Daesh, etc. Nous avons tendance à considérer que les relations internationales, c'est les jeux d'échecs, c'est-à-dire les bad guys contre les good guys. Ça, c'est fini, ce monde-là. C'est des sociétés qui se décomposent, qui se déchirent, qui souffrent et qui voient les autres ne pas souffrir. Et ces frustrations, eh ben, ça crée les malheurs que nous connaissons actuellement. Donc la paresse, c'est de ne pas voir tout ça et de continuer à sortir des communiqués appelant à la retenue.
Dick Howard, pour terminer cette première partie d'émission, à la lecture de ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que vous avez le sentiment que aux États-Unis, on a davantage de prise de conscience de l'évolution du monde et que le monde a changé ?
Le dilemme actuellement aux États-Unis vient justement de la sagesse de Barack Obama, parce que d'une certaine manière, faire une politique qui reconnaît que nous ne sommes pas seuls au monde, ce n'est pas très payant sur le plan, disons, de la politique électorale. Vous faites mieux d'avancer des grandes causes. Le triomphe des néoconservateurs n'était pas simplement un triomphe sur le plan intellectuel, bien que vous avez raison, Bertrand Badi, c'est le résultat d'une part d'une certaine réification, d'une certaine manière de penser le monde à travers, oui, une réification, une logique qui s'imposait, mais d'autre part, le néoconservatisme triomphait pour des raisons électorales. Mais j'aimerais revenir pour deux secondes sur l'histoire de la pensée des relations internationales en Europe. Qu'en était-il du marxisme ? Il est vrai, en France, le Parti communiste dominait. Il y avait justement une incapacité de penser la politique. On réduisait tout à l'économie. Mais néanmoins, depuis, on a oublié les leçons du marxisme. Si le néoconservatisme est mort, c'est très bien. Est-ce qu'on pourrait quand même tirer des choses, non pas du marxisme, mais de Marx, qui justement savait très bien, ou aurait su très bien critiquer la décolonisation stupide, critiquer ces 6 millions de morts tous les jours, etc., etc. Comment se fait-il que la pensée de Marx soit disparue de la scène ?
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Bertrand Badi et Dick Howard dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard croisé sur les relations internationales. Nous retrouvons nos invités Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Nous ne sommes plus seuls au monde, qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Et Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant émérite à la Stony Brook University de New York et auteur de Aux origines de la pensée politique américaine aux éditions Hachette. Bertrand Badi, nous évoquions dans la première partie de l'émission la notion de réflexion en termes de politique étrangère, de politique internationale. Je donnais l'exemple des nombreuses références bibliographiques dans votre ouvrage qui nous proviennent d'outre-Atlantique. Et Dick Howard déplorait la disparition de la pensée marxiste.
Moi, je crois qu'il a tout à fait raison. Moi, je partage pleinement ce point de vue. C'est un phénomène que celles et ceux de ma génération ont vécu en direct. En mai 68, Marx était présent, même s'il était un peu chahuté, relu de manière critique, mais il était très très présent. Aujourd'hui, il a complètement disparu. Je pense que la fin de la bipolarité lui a été fatale, ce qui est une erreur, parce que considérer que l'URSS ne se comprend que comme enfant de Marx est un non-sens, et considérer que Marx ne pouvait avoir comme enfant que l'URSS est un non-sens absolu. Donc, tout ceci participe d'un phénomène d'emballement que l'Europe a vécu, à savoir avec la fin de la bipolarité, la fin du marxisme, avec la fin du marxisme, la fin des idéologies de gauche, avec la fin des idéologies de gauche, la fin de la gauche, et du coup un vide sidéral en matière de pensée critique. C'est-à-dire que on pouvait penser ce qu'on voulait du marxisme en général et des idéologies de gauche en particulier, il reste qu'ils ont alimenté la pensée critique et donc le débat. Il y avait dans les années 60-70 en France encore un débat. Aujourd'hui, les questions de politique internationale que vous nous posez ne sont jamais débattues. Quand rarement le Parlement se saisit de sujets internationaux, il y a une sorte de consensus mou et très faible intellectuellement qui vient se dégager. Tout ça parce qu'il n'y a plus le ressort de la pensée critique. Et là où Dick Howard a encore raison, c'est effectivement de considérer que cette grande mutation que nous vivons et dont nous sommes en quelque sorte l'otage en même temps, à savoir la montée des sociétés et l'intersocialité, Marx en a été, avec un sociologue français, Émile Durkheim, le grand penseur. C'est-à-dire le fait que il faut regarder avant de prendre en compte la politique des États et des gouvernements, la manière dont les sociétés se rencontrent, autant pour coopérer que pour entrer en conflit. Et là, déjà, l'analyse sera beaucoup plus intéressante. Parce que n'oubliez pas que la conflictualité a changé de visage. La guerre, autrefois, c'était une compétition de puissance. Aujourd'hui, la guerre est une compétition de faiblesse. C'est-à-dire, les conflits que nous observons et qui sont extraordinairement sanglants ne dérivent pas tant d'un jeu de puissance que d'un effet de décomposition des États, des nations et surtout des sociétés. C'est quand même les sociétés les plus mal classées en termes d'indices de développement humain qui sont les plus conflictualisées. La faim dans le monde, autrefois, entraînait la résignation. Aujourd'hui, comme elle s'accompagne d'une visibilité du fort et de l'opulent, elle crée exactement le contraire, la révolte, l'indignation et d'un certain point de vue, l'intolérance à l'égard de tout ce qui est incarné par le puissant et le fort. Et nous en payons le prix terrible à travers notamment les violences que l'on appelle terroristes qui s'abattent sur la France et sur d'autres pays européens.
Dick Howard.
Bertrand Badi a soulevé un point qui est intéressant et est passé de Marx à Durkheim. Ce qui est intéressant, ça me rappelle que les dernières conférences prononcées par Émile Durkheim traitaient du pragmatisme américain. Et comme vous vouliez, Marie-France, qu'on ait des regards croisés, je soulève ce point. Le pragmatisme américain, c'était une pensée qui cherchait, d'une part, à prendre conscience de l'autre, donc nous ne sommes pas seuls au monde, pour approfondir la démocratie à l'américaine et pour approfondir donc notre manière de nous concevoir dans le monde. Donc, je me demande si justement il n'y aurait pas une manière de revenir non pas tant peut-être à Marx, au marxisme, mais au pragmatisme. Et qu'est-ce que c'était le pragmatisme? Deuxième point, c'était une pensée qui justement cherchait à aller au-delà de l'antipolitique, par exemple de l'époque, qui était cette pensée molle, cette pensée paresseuse, pour parler comme Bertrand Badie, et pour justement s'opposer donc à une antipolitique et créer une ouverture vers le politique. Maintenant, en termes de relations internationales, en termes de la décolonisation ratée, en termes des défis que nous lance cette mondialisation, est-ce que justement il n'y aurait pas à retourner au pragmatisme en tant que pensée du politique et en tant que refus de l'antipolitique ?
Bertrand Badie, je vais vous faire réagir, mais je voudrais qu'on revienne sur la notion de puissance et la notion de faiblesse. Vous évoquez l'idée que, enfin, vous mettez à mal, en tout cas, les certitudes concernant la force absolue de la notion de puissance. Vous parlez de la puissance des faibles. De quand date l'émergence des faibles? Et pour rebondir peut-être sur ce que vient de dire Dick Howard, vous évoquez l'idée que Barack Obama, finalement, est le premier président américain qui a compris les limites de la posture réactive de la puissance et qui a amendé la routine intervention. Est-ce que c'est du pragmatisme?
Je crois qu'on est en totale communion sur tous ces points, parce que qu'est-ce que l'intuition durkheimienne? C'est de dire, attendez, dans le jeu social, la puissance n'est pas centrale. Il nous dit quelque chose qui apparaît comme une grande banalité, mais qui est vraiment fondamental. Le jeu social n'est pas possible s'il n'y a pas un minimum d'intégration sociale. Ça, c'est du pragmatisme de manière très claire. C'est-à-dire dire, mais écoutez, vous pouvez penser ce que vous voulez, développer les idéologies, promouvoir les intérêts que vous voulez. S'il n'y a pas un minimum d'intégration sociale, tout ça va s'effondrer dans une sorte de conflit généralisé. C'est-à-dire la peur que Marx ait raison. Et c'est sur cette base-là que les premières politiques sociales à la fin du 19e siècle ont été amorcées par des gens très conservateurs qui disaient, mais c'est finalement la seule façon de nous sauver par rapport à la montée de la lutte des classes. Transposons ça au niveau international. Ça tient parfaitement la route. Et d'ailleurs, un très grand homme comme Léon Bourgeois a été le premier président de la Société des Nations, porté par le solidarisme durkheimien, et essayant de transposer cette idée d'intégration sociale que Durkheim avait forgée pour les nations, de le transposer au niveau mondial. Il n'en est pas sorti, hélas, grand-chose, sauf de vénérables institutions, comme par exemple le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, qui a joué, je crois, un rôle extrêmement important. Maintenant, et pour répondre directement à votre question, Marie-France, la décolonisation ratée, elle a amené dans le monde un contraste socio-économique, des inégalités socio-économiques absolument énormes. Quand les Européens étaient entre eux, c'était des gens d'un niveau de développement économique comparable. Quand nous sommes entrés dans un monde globalisé, les inégalités socio-économiques sont devenues phénoménales. Entre le revenu moyen d'un Centrafricain et le revenu moyen d'un Qatari, vous voyez quel trou béant vient se placer. Et donc, personne, c'est pour ça que je parle de paresse intellectuelle, ne s'est posé la question toute simple et toute évidente, est-ce qu'un système peut supporter un tel degré d'inégalité? La réponse est évidemment non, et du coup l'inégalité a pris le dessus sur la puissance. C'est-à-dire l'inégalité, à partir du moment où elle s'est installée, qu'elle n'a pas été traitée, a mené l'agenda international. Regardez ce qui fait l'agenda international, en tout cas depuis la chute du mur, c'est beaucoup plus les effets d'inégalité ou de contrastes culturels qui sont étroitement associés à ces inégalités socio-économiques qui mènent l'agenda international. Et du coup, la faiblesse, c'est-à-dire la marque de ceux qui sont victimes de ces inégalités, devient plus déterminante que la puissance. Et alors, il y a quelque chose que ces paresseux n'ont jamais compris, c'est que la puissance contre la puissance, ça marche. Le tout, c'est d'être soit un tout petit peu plus puissant que l'autre, soit plus intelligent dans l'usage de ses ressources de puissance. Mais la puissance face à la faiblesse, figurez-vous que ça ne marche pas. Et ça, un cerveau occidental a beaucoup de mal à le comprendre. Alors moi, ce qui m'a fasciné chez Obama, c'est le courage de cet homme. Parce que lorsqu'on est le leader de la superpuissance et qu'on a le courage de se tourner vers son peuple pour lui dire « Écoutez, c'est pas parce qu'on est les superpuissants qu'on pourra tout régler », c'est quand même une rupture terrible. Il y a eu une interview d'Obama qui a été donnée à la presse, qui a été presque oubliée, j'ai l'impression d'ailleurs plus ou moins de facto censurée. Un jour, un journaliste américain demandait à Barack Obama « Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à bout de Daesh ? Daesh, c'est 30 000, 40 000 hommes, nous, c'est la plus grande puissance, plus tous nos alliés, etc. » Et Obama a répondu quelque chose qui m'a complètement scié et en même temps fait énormément plaisir, parce que c'était la vérité. Il dit, mais écoutez, si Daesh est si fort, c'est parce que Daesh a un soutien social. Il a un soutien social de toute une population frustrée. Frustrée en Irak parce que les sunnites irakiens ont été exclus de tout. Frustrée en Syrie parce que l'opposition à Assad était exclue de tout et en plus bombardée. Et Obama de dire, bah écoutez, lorsque la frustration atteint un tel degré, il faut pas s'étonner que ces populations viennent apporter leur soutien à des entrepreneurs de violence comme Daesh. Alors, il y a des gens qui, en Europe, sauteraient immédiatement sur leur chaise pour dire « ça, c'est excusé Daesh que Daesh ». C'est pas du tout excusé. C'est au contraire l'intelligence de comprendre le grand tournant de notre monde, cette accumulation de faiblesses, cette non-gestion de la faiblesse et cette prétention naïve de rectifier la faiblesse par la force, ça ne peut pas marcher.
Vous écoutez RFI.
Géopolitique. La faiblesse ou trop de faiblesse tue la puissance. Dick Howard, vous partagez ce que vient de dire Bertrand Badie concernant ne serait-ce que le président américain Barack Obama ?
Oui, mais j'aurais deux questions à lui poser en fait. Dans son livre, le dernier chapitre commence par faire un éloge éblouissant de ce qu'était la politique internationale gaullienne. Mmh. Et puis, en 2003, a lieu aux Nations Unies le grand discours de Villepin. On refuse de suivre les États-Unis, etc. Et puis, quoi, 3 mois, 4 mois après, la France monte dans le train. Première question, est-ce que on peut imaginer un successeur digne de ce qu'avait été cette politique gaullienne? Ça, c'est la première question que je poserai. La deuxième, en partant de ce livre, le livre démarre par une reconstruction de la politique internationale qu'on appelle westphalienne, c'est-à-dire comment c'est construit à partir du traité de 1648 qui met fin aux guerres de religion, comment c'est construit donc ce système de relations internationales. Ne devrait-on pas penser à la création de ce qu'on appellerait en français du politique international et non pas de la politique internationale. Donc, de faire un cadre, parce que, et dernière remarque à propos de Durkheim, Durkheim nous raconte, par exemple, qu'il n'y aurait pas de relations contractuelles entre nous, par exemple, je vous prête l'argent, vous allez me rendre, parce que on a déjà eu l'idée que des prêts se rendent. Donc, en gros, qu'il y a un cadre normatif, si l'on veut. Donc, 3 petites questions.
Et pour voilà. Insister peut-être sur ce qu'évoquait à l'instant Dick Howard en ce qui concerne la politique française, Bertrand Badie, 2003, la France dit non. Et puis ensuite, c'est ce que vous développez dans votre ouvrage, la France est devenue presque le meilleur des petits soldats. C'est-à-dire qu'on est allé au-delà des attentes, comme s'il y avait peut-être un sentiment de culpabilité. On n'a pas osé aller trop loin dans notre nom vis-à-vis des États-Unis. Et notre pays est devenu finalement très interventionniste.
Absolument. Moi, ma fascination pour le général de Gaulle est une fascination assez minoritaire. C'est-à-dire que j'ai de l'admiration pour le grand homme, d'abord parce que je rends hommage à son extraordinaire lucidité. Je pense que le général de Gaulle a été le premier à comprendre notre nouveau monde et à avoir compris la mondialisation. C'est-à-dire qu'il comprenait fort bien que les relations internationales ne se borneraient pas indéfiniment aux relations Est-Ouest. Et c'est le premier en France et en Occident à avoir compris que l'avenir des relations internationales, c'était dans le Nord-Sud qu'il allait chercher, d'où la manière dont il a accéléré la décolonisation, dont il a construit une politique arabe de la France, dont il s'est intéressé à l'Amérique latine et dont il a ouvert des relations diplomatiques avec la Chine. Et il a compris que dans cette mondialisation, la place de la France n'est plus celle de la puissance, mais de la grandeur. Ça voulait dire que on pouvait avoir toute sa place dans un monde globalisé à partir du moment où on savait parler juste et porter les symboles et les valeurs justes. D'où, effectivement, cette politique de grandeur. Complètement ignorée, non pas de ses successeurs immédiats, parce que Pompidou, Giscard, Mitterrand ont continué cette politique. Mais après, on s'est embourbé. Alors, ça me permet de répondre à votre question. 2003, un virage à 180 degrés. Jacques Chirac prend position contre l'intervention américaine en Irak. Et puis, en juin 2003, à Évian, au G8, il vient en quelque sorte se mettre à genoux devant un George W. Bush qui avait failli même ne pas venir à Évian parce que c'était en France. Pourquoi tout ça? Pour des raisons probablement conjoncturelles liées au fait qu'à l'époque l'Europe se transformait, la France avait perdu son leadership sur l'Europe, l'Europe devenait trop grosse pour pouvoir suivre un seul leader, donc la France perdait sa première ressource diplomatique. Et comme ses relations avec le Sud se détérioraient, elle n'avait même plus le levier de ses appuis au Sud dans le monde arabe ou dans le monde africain ou latino-américain. Et puis, il y avait aussi un effet générationnel. Ces nouveaux acteurs politiques étaient beaucoup plus marqués par l'influence du néoconservatisme américain que par cette vieille pensée européenne qui n'était plus de leur génération. Et du coup, depuis 2003, nous ne cessons de perdre des points. Vous dites, Marie-France, que nous sommes de plus en plus interventionnistes. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on est à contre-courant de l'histoire. Et d'ailleurs, regardez, quand nous nous lançons dans ces acrobaties interventionnistes, nos alliés européens rigolent doucement sous cap et font en sorte de ne pas trop s'en mêler. Alors, effectivement, sur ces échecs colossaux que nous sommes en train d'essuyer, se posent de vraies questions. D'abord, quel est le rôle de la France dans ce nouveau monde ?
Puissance moyenne.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, une puissance moyenne ? Et deuxièmement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Dick Howard, il est temps de définir une nouvelle géométrie des relations internationales. Ça veut dire surtout changement des pratiques, c'est-à-dire mettre fin à cette espèce de paternalisme.
Alors, il y avait évidemment bien d'autres sujets à développer, passionnants. J'aurais dû faire une série avec vous deux sur cette thématique des relations internationales. Mais j'ai une dernière question, Dick Howard, elle est pour vous. Sur les relations entre la France et les États-Unis, quand Obama se déplace en Europe, il rencontre Angela Merkel, il rencontre M. Cameron pour la Grande-Bretagne. Quelle place pour François Hollande ?
Oh là là, je ne vois pas de réponse à cette question. J'ai l'impression que la différence entre la politique gaullienne décrite par Bertrand Badi et la politique d'Obama, qui à certains égards pourrait s'y comparer, la différence est que de Gaulle ne se préoccupait jamais de légitimation démocratique par les suffrages. Et Obama ne peut penser qu'à cela. Et d'une certaine manière, donc, si on voulait savoir plus en détail ce qu'il en était de la France, disons, dans la conscience collective américaine, il faudrait faire l'analyse, je crois, à partir, justement, des questions que le public américain pourrait entendre, par exemple, que M. Hollande soit allé en Nigeria récemment, ne dit rien du tout à l'américaine, et surtout, je me demande pourquoi il est allé, d'autant plus que, si mon souvenir est exact, la France, jadis, a soutenu la succession en Nigeria du Biafra. Donc, la France ne doit pas avoir laissé de très bons souvenirs chez les Nigériens.
Mais donc, il y avait quelque chose à réparer, sans doute. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « Nous ne sommes plus seuls au monde » qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Et Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant émérite à la Stony Brook University de New York et auteur de « Aux origines de la pensée politique américaine » aux éditions Hachette. Je signale très rapidement la parution d'un ouvrage « Le cercle de l'Union interalliée » aux éditions du Cherche Midi. C'est l'histoire de ce lieu et de sa construction en 1713 comme hôtel particulier particulier et qui fut à partir de 1917, c'est un peu en lien avec l'émission d'aujourd'hui, qui à partir de 1917, donc juste après l'entrée en guerre des États-Unis, fut un lieu d'accueil et d'échange pour les officiers et personnalités des nations de l'Entente. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Marion Lestel, Nathalie Laporte. À samedi prochain.